et à toutes, et merci aux organisateurs, j'anticipe un peu, de nous avoir invités à présenter ceci. On apprécie en particulier le clin d'œil, la mise en œuvre. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec les œuvres d'art dont on va parler, mais pas que. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran là?
Oui, parfait.
Oui, donc en fait, effectivement, le mobilier qu'on examine et qu'on analyse au Centre de recherche et de restauration des musées de France est constitué en partie d'œuvres d'art, mais pas que. Il y a aussi des objets qui font partie de ce qu'on appelle les arts décoratifs, et puis des objets, disons, du quotidien. Et tout ce beau monde vient aussi bien de collections muséales, évidemment en majorité, mais aussi de collections archéologiques. Cette diversité, elle se reflète aussi dans les typologies d'objets. Alors, je ne vais pas tout repasser. En gros, c'est tout ce qu'on peut trouver dans un musée, hein, et la diversité concerne aussi les matériaux. Voilà, verre, bois, os, plastique, matière organique, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, pour étudier ce mobilier, puisqu'évidemment, il est en majorité dans les musées, ben, on essaye tant que faire se peut de pas trop les abîmer et donc de limiter les prélèvements. Ceci étant, dans beaucoup de cas, on a besoin pour examiner, pour analyser, pour aller plus loin, de faire des prélèvements. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les échantillons d'œuvres, évidemment par référence aux œuvres d'art. Alors, ça marche. Ces échantillons qu'on prélève, ils sont conservés sous différentes formes au C2RMF. Ça peut être des fragments suprasentimétriques, hein, typiquement là, les fragments de creuset, mais aussi des écailles, hein, donc submillimétriques, comme ici les choses que, notamment pour la peinture ou pour les œuvres, les études de polychromie. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est poudre, copeaux prélevés à différentes fins d'analyse. Et ces échantillons-là, ils sont souvent amenés à être transformés, hein, typiquement pour en faire des coupes épaisses ou stratigraphiques, hein, donc enrobées dans de la résine, ou des lames minces, hein, pour des études pétrographiques. Alors on a conduit récemment un premier écoulement des échantillons conservés au C2RMF. Ça s'élève à peu près à 40 000 échantillons. C'est loin d'être précis pour l'instant. Et on a estimé aussi à une production de l'ordre de 1 200 échantillons par an. Voilà. Donc en fait, ce constat fait, et surtout le constat fait que finalement il n'y avait pas de structuration globale à l'échelle du centre, on a été amené, enfin la direction nous a demandé de mettre en place un projet particulier en 2017, c'est le projet COREF. Alors de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit bon, d'abord d'un projet qui est en cours, hein, qui a démarré certes il y a 4 ans, mais qui réclamera encore une bonne soixantaine d'années, je dirais, qui a pour objet la conservation et le référencement physique et numérique, documentaire, des échantillons d'œuvres, donc, mais pas que, aussi des échantillons actuels, on va le présenter tout à l'heure, et expérimentaux qu'on est amené à collecter ou à produire. Alors, très rapidement, ce projet COREF, il est piloté par 4 personnes. Donc, Elisa Porto, Marianne Segaud, Yannick Van Denberg et moi-même, David Bourgari. Yannick va prendre la deuxième partie de la présentation. Mais bien sûr, ce projet, il est fait avec enfin, la plupart des agents du C2RMF. Alors, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est plus un peu, ben, forcément, un état en cours du projet. Et un peu les réflexions qui nous ont amenés d'abord à mettre en place ce projet et puis qui sont survenues au cours des 4 dernières années. La première question, c'est à quoi ça sert de conserver des échantillons d'œuvres? Alors, on en a beaucoup parlé toute la journée, mais enfin, on va vous donner aussi des exemples rapidement, hein. On s'est aussi un petit peu questionné sur la valeur scientifique, évidemment, de ces échantillons, qui est au cœur des problématiques de la journée d'aujourd'hui. On va pas mal vous décrire un peu le côté pratique de cette matériothèque, comme on l'appelle. Et enfin, on va vous évoquer les perspectives de projet et on espère profiter de vos connaissances. Alors, très rapidement, après avoir enquêté là, auprès des collègues, on s'est rendu compte, parce que, enfin, en tout cas, moi, je ne le savais pas tant que ça, que recourir aux échantillons collectés par les prédécesseurs, hein, depuis les années 60, typiquement, est une pratique très courante, en fait, par les agents du C2RMF. Alors, sans rentrer dans le détail de qu'est-ce qui constitue la base actuelle, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont les coupes stratigraphiques, hein, pour les études de peinture ou d'objets polychromes qui font la majorité des échantillons. et qui sont les plus sollicités, notamment sur le retour à l'échantillon. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de la petite enquête qu'on a menée. Aussi, on a demandé évidemment aux collègues à quoi ça leur servait de revenir sur ces échantillons parfois pluridécennaires. Et donc, voilà les quelques réponses que je vais vous donner. Oui, donc la première application, c'est typiquement, on se rend compte que l'étude de telle ou telle œuvre est redémarrée pour des raisons diverses, et notamment parce que les techniques ont évolué. Alors là, un exemple assez représentatif sur ce portrait de Nicolas de Van Beck par Rembrandt, où en fait, les gens qui ont étudié ça, dont Pascal Richardin au C2RMF, ont mis en place une nouvelle technique hein, de ToF-SIMS à haute résolution pour aller réétudier la couche picturale, hein, donc sur une coupe strati, et bien leur a pris, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont pu mettre en évidence des nouveaux éléments dans la couche à la fois de préparation, hein, de l'amidon, est-ce qu'on voit le starch dans cette coupe, là ici à l'échelle 20 microns, et puis aussi dans la couche picturale avec la mise en évidence de résidus textiles, de manufactures textiles. Voilà, très rapidement, évolution des techniques, et puis évidemment de nouvelles questions qui motivent le retour sur l'échantillon ancien. Alors, après, les échantillons, ils commencent à, vous avez vu, il y en a 40 000, donc dans certains domaines, ils finissent par constituer un corpus suffisamment large et solide pour devenir un, alors je ne sais pas si on doit dire un référentiel ou une série de références, en tout cas, quelque chose dans laquelle la communauté scientifique peut trouver matière à recherche, dans le cadre, bien évidemment, de collaboration. Et c'est le cas ici des œuvres, pas mal emblématique des œuvres en céramique glacurée de l'artiste Della Robbia de la Bogheta, de la Renaissance italienne puis française. Depuis une vingtaine d'années, les œuvres de ces productions sont conservées en France. En tout cas, celles qui sont conservées en France ont été systématiquement étudiées et échantillonnées avec des prélèvements des pâtes et des glaçures, hein, donc de la couche de surface. Et ce qui constituerait actuellement probablement la plus grande banque d'échantillons de cette production. On est à plus de 100 échantillons sur près de 70 œuvres. Ceci a permis d'ouvrir pas mal de nouveaux chantiers d'études, avec des collaborations internationales, notamment avec l'Opificio à Florence, et évidemment d'élargir un peu les champs de la recherche avec des études sur l'évolution des savoir-faire, des matériaux mis en œuvre, notamment lors la famille Della Robbia est venue s'installer en France, donc c'est intéressant d'étudier comment ils ont négocié ce changement dans leur technique. Et puis après, il y a des choses un petit peu plus particulières, l'identification des phases colorantes, notamment les antimonades de plomb, la question des opacifiants, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, je pense, un échantillon, c'est en lui-même un objet, avec toute sa complexité, et il est souvent nécessaire de retourner sur l'objet, hein, sur l'échantillon. Et c'est ce que, par exemple, ce que nous ont relayé les pétrologues, donc Yvan Coquineau notamment, et Christelle Doublet, en disant que quand ils examinaient un nouvel échantillon, un nouveau prélèvement, ils arrivaient très très fréquemment qu'ils reviennent, qu'ils aillent chercher dans leur base de lame mince la roche qui ressemble pour les regarder en même temps sous microscope. C'est un objet qui est beaucoup plus parlant que les données analytiques qui ont été collectées auparavant. Donc voilà, l'échantillon comme objet à part entière, ça c'est quelque chose aussi d'assez intéressant à savoir. Alors, les échantillons qu'on a, pourquoi on les garde? Évidemment, c'est aussi parce que les opportunités de prélever sont rares, hein, en particulier sur les objets des musées. Alors, soit parce qu'il s'agit d'œuvres précieuses, fragiles, trop petites, on ne peut pas prélever trop de fois sur une petite œuvre. Il y a les autorisations de prélèvement, avec les conservations qui ne sont pas toujours faciles à obtenir, etc. etc. J'en parle pas de cet exemple, on avait un exemple sur les portraits du Fayoum. Excusez-moi, j'ai un peu raté le coche là. Mais enfin voilà, je relis mon texte, merde. Peu importe, de toute façon, on n'a pas le temps là, on a un peu dépassé le temps. Enfin voilà, les opportunités de prélever sont malheureusement rares, donc on se sert beaucoup de ce qui existe et ça sert bien. Alors, c'est des œuvres trop rares, trop fragiles, trop petites, trop difficile d'accès, comme vous voyez ici. Voilà, donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on conserve les échantillons d'œuvres, pardon. Et enfin, il est bien évident que enfin, malheureusement, on constate aussi que les œuvres, les objets, le mobilier sur lequel on a prélevé, est amené sinon à disparaître, en tout cas à s'altérer, du fait de. Tiens, je n'avais pas sorti l'image là. Du fait de certains nettoyages intempestifs, lors de réinstallations, de remontages, etc., dans les salles de musée. Il y a aussi des restaurations qui font disparaître des matériaux de restauration qui s'avèrent être intéressants dans les études d'objets, de l'histoire d'un objet. Je ne sais pas si Nathalie Balcar nous en parlera tout à l'heure, mais enfin, en tout cas, c'est aussi des problématiques. Et bien sûr, simplement, l'altération naturelle de l'œuvre peut faire disparaître bah, typiquement les couches de surface, hein, la polychromie, les dorures, etc., etc. Voilà. Ah ben, là, voilà la photo que je voulais montrer. Ben voilà, je vais passer la parole à Yannick maintenant pour la suite. Et c'est moi qui anime le PowerPoint.
Merci David. Donc effectivement, lors de la mise en place de ce projet, plusieurs problématiques sont apparues. Donc comme l'a dit David, la principale d'entre elles concernait la valeur scientifique des échantillons. Donc il a parfaitement illustré l'intérêt qu'il peut avoir à conserver tous ce précieux matériel. Voici rapidement deux exemples de projets qui ont été menés et qui illustrent comment des échantillons étudiés plus ou moins individuellement peuvent être réexploités dans un contexte plus large. Donc avec d'une part l'étude des préparations des peintures de chevalet françaises sur toile du XVIIIe siècle, qui a eu pour finalité de caractériser les tendances générales de l'évolution chronologique du passage des préparations colorées aux préparations blanches. Donc c'est une étude pour laquelle il a fallu faire d'importantes recherches. Donc dans un premier temps, dans la base de données EROS, donc notre base de données qui référencie les œuvres qui ont été étudiées et ou restaurées au C2RMF, ce qui a permis d'identifier 4700 peintures. Donc une sélection réduite de façon drastique à 115 œuvres possédant des échantillons ayant pu être réanalysés. Donc, diapo suivante. Un travail similaire a été réalisé sur l'étude des techniques picturales des terres cuites grecques antiques, donc qui comprend plusieurs campagnes d'analyse et de prélèvement avec plusieurs stages, post-doctorat répartis sur de nombreuses années, qui ont abouti à une masse de données et de matériel conséquent. Donc 187 œuvres, dont 55 ont été réétudiées dernièrement, 376 échantillons, dont près d'une centaine réanalysés. Et cette possibilité de revenir sur des échantillons après la réinterprétation des résultats anciens face aux découvertes récentes a permis d'établir des points de comparaison entre l'étude stylistique, l'analyse de la pâte céramique et la nature de la préparation de la polychromie, et ainsi d'établir des caractéristiques d'atelier. Chacun des trois domaines de compétences venant aider à l'interprétation des deux autres. De plus, la maturation de la réflexion autour de ce corpus a permis de cibler des problématiques spécifiques qu'il a été possible d'approfondir grâce aux anciens prélèvements. Donc avec des données inédites sur les techniques picturales employées, telles que l'utilisation de sous-couches colorées, de feuilles d'étain, l'utilisation d'un liant minéral à base de chaux qui était passé inaperçu jusqu'ici, la présence de pigments rares comme la mimétite, ou encore celle d'un colorant violet encore indéterminé, mais qu'il a été possible de rattacher à la draperie d'Aphrodite provenant du fronton est du Parthénon. Donc pour arriver à toutes ces conclusions, il a fallu de nombreuses heures de travail pour réussir à regrouper et retrouver toutes les informations sur ces échantillons, avec malheureusement des données encore introuvables ou même perdues. Donc c'est pourquoi ce projet de référencement devait absolument être mis en place. Donc diapo suivante. Donc, bien que ce ne soit pas le thème principal de cette journée, il nous a paru important de revenir rapidement sur les problématiques rencontrées pour la mise en place de la base de données afin de mieux comprendre le contexte de ces prélèvements. Donc, la première étape du projet fut de prendre en compte le retour d'expérience sur les multiples tentatives précédentes de référencement de ces échantillons. En effet, pour diverses raisons, notamment une importante hétérogénéité des matériaux, mais aussi des pratiques, ainsi qu'une charge de travail ne pouvant être absorbée par le personnel actuel, tous ces projets n'avaient pas abouti. Diapo suivante. Donc, nous avons donc décidé de n'intégrer que les données minimales lors de la saisie des échantillons. Le lien avec la base de données EROS via le numéro de référence C2RMF permettant une insertion automatique d'un certain nombre d'informations liées à l'œuvre. Et nous avons également réfléchi à l'ergonomie de l'interface afin de simplifier et minimiser le temps dédié à ce travail. Donc, diapo suivante. La réflexion s'est poursuivie sur l'accès à l'information. En effet, la recherche d'anciennes données est bien souvent très complexe et nécessite une fouille minutieuse de multiples formats de référencement, car il existait une importante dispersion de l'information. Avec une hétérogénéité des modes de référencement, donc avec des tableurs Word ou Excel, l'utilisation de logiciels sous licence comme FileMaker, avec toutes les questions d'obsolescence des versions, sans parler des référencements uniquement conservés sous la forme de cahiers manuscrits. Donc de plus, ces données n'ont pas nécessairement été collectées de manière collégiale et il existe des listings parallèles d'un même matériel. Donc à ces difficultés de localisation de la donnée s'ajoutent des degrés variables dans la précision des informations associées à l'échantillon. Une diapo suivante. Donc l'outil qui a été créé permet ainsi de regrouper l'ensemble des données et de les uniformiser. L'accès aux informations sera également facilité grâce à sa mise en ligne permettant un accès à distance. Diapo suivante. Les problèmes rencontrés sur les référencements des données se retrouvent également pour la recherche des échantillons même. Ces derniers sont conservés de façon extrêmement hétérogène et dispersée. Dispersés dans les lieux de stockage, alors certains dans les laboratoires, d'autres dans les bureaux du personnel, mais aussi hétérogènes dans le mode de conditionnement et le type de contenant utilisé, avec des boîtes et di de divers formats, voire de récupération, des enveloppes, des piluliers, des gélules, etc. Donc, diapo suivante. Un espace de stockage a donc été mis en place, un espace de stockage dédié, sous la forme de compactus comprenant 13 épis répartis par domaine. Une homogénéisation des contenants a été réalisée et l'ensemble des boîtes, caisses et étagères sont indexées afin de retrouver efficacement ces échantillons. Diapo suivante. Donc, au-delà de l'accès aux prélèvements et aux données, nous travaillons également sur les questions complexes de conservation des échantillons. Donc, si certains ne subissent que peu, voire pas de changement au cours du temps, d'autres vont nécessairement s'altérer ou évoluer. Donc, y compris après prélèvement. Donc, c'est le cas notamment de la matière organique, de nombreux produits de synthèse, mais aussi d'autres composés. Comme cela a pu être observé lors de la thèse de Marion Alter, qui a visualisé une évolution du brunissement d'un composé organométallique de cuivre d'un échantillon de peinture inclus en coupe stratigraphique. Donc la question des meilleurs modes de conditionnement est posée, mais également l'intérêt ou non de conserver ce type d'échantillon qui va continuer de s'altérer. Donc cette réflexion est toujours en cours de discussion, on pourra en discuter éventuellement aussi par la suite. Diapo suivante. Donc, en termes de perspective d'évolution, l'outil doit encore subir donc des évolutions et des perfectionnements, mais nous avons fait en sorte de mettre en place une interface permettant l'interopérabilité avec d'autres bases de données, notamment concernant les données analytiques, qui sera possible de relier directement à l'échantillon. La prochaine évolution sera d'y intégrer les nombreuses références que nous possédons et qui n'ont également que des modes de référencement isolés. Donc c'est le cas d'échantillons actuels commerciaux avec des matériaux de la couleur, des pigments, des peintures, mais aussi des produits de restauration. Diapo suivante. Il y a également des produits naturels collectés, comme des argiles ou des roches, mais nous produisons aussi, lors de programmes de recherche, thèses ou autres stages, de nombreuses simulations expérimentales avec des reconstitutions de pratiques artisanales, de la synthèse de composés, qui pourront, quand ils seront référencés correctement, être mieux exploités ou réexploités. Donc si on arrive à faire ce référencement collégial. Diapo suivante. Donc nous posions dans notre titre la question de définir s'il s'agit d'un référencement ou de référentiel. Donc c'est une question voilà, qui peut se poser aussi en termes de sémantique et de nom. Bon, nous sommes clairement, je pense, en possession d'un matériel qui permet d'établir non pas un, mais de multiples référentiels, mais qui reste encore à mieux structurer et consolider, avec notamment cet outil qui nous permettra de mettre en place voilà, des corpus d'études avec une approche multimatériaux et interdisciplinaire. Et je tiens enfin, pour finir, à remercier l'ensemble du personnel de C2RMF, comme l'a déjà fait David, mais qui s'est impliqué et qui continue de s'impliquer dans ce très grand chantier pour transmettre et diffuser donc les richesses que nous conservons. Merci.